Proverbe chapitre 13. Proverbe 13, et je vous lis verset 12. Et après, j'ajouterai deux proverbes, 19 et 25. Donc, Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Puis 19. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Et puis 25. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Je reprends surtout le verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Depuis quelques dimanches, nous parlons des sentiments, des émotions que l'on peut trouver dans le cœur, dans la vie. Et c'est vrai, pour l'instant, nous avons retenu ceux qui ont plutôt une connotation négative ou désagréable, comme la peur, la culpabilité, le doute, la colère. Mais nous avons dit, et selon la Bible, nous avons vu que les sentiments ne sont pas mauvais en soi, mais c'est plutôt le soi qui est mauvais et les sentiments virent, ils tournent au vinaigre et nous posent problème dans la vie. Souvent, c'est le reflet d'un problème plus profond quand on a des problèmes au niveau des sentiments. Et ce matin, nous allons voir un autre sentiment, c'est le sentiment qu'on trouve dans ce proverbe. Je crois que c'est un sentiment fort connu. C'est le sentiment qui résulte de ce que ce proverbe appelle un espoir différé, ou bien un espoir, une attente, un rêve qui ne se réalise pas. Et c'est le contraire d'un désir accompli. De quel sentiment s'agit-il? Bien, il s'agit de ce que nous appelons la déception, être déçu. La déception, et c'est quelque chose qui peut particulièrement peser sur notre cœur, qui peut même définir notre existence, cette déception lorsqu'elle est grande. Il y a ce livre classique, célèbre, assez connu, et le titre c'est Les grandes espérances. Ça a été traduit dans beaucoup de langues, c'est devenu des films aussi. Les grandes espérances, et c'est un commentaire que nous vivons tous avec justement de grandes espérances dans la vie. Mais au cœur de l'histoire, il y a cette dame, il y a une vieille dame, et au début de sa vie, au jour de son mariage, son fiancé a décampé, n'est pas arrivé. Et elle-même, elle ne se remet jamais, comme vous pouviez imaginer. Et même dans l'histoire, c'est assez fort, elle fait arrêter toutes les horloges de la maison à l'heure même où elle a reçu la nouvelle qu'il ne venait pas. Elle n'enlève jamais sa robe de mariée. Elle garde le gâteau de mariage sur la table dans le salon. Et toute sa vie, elle vit comme ça, et les toiles d'araignée qui s'installent sur tout. Et elle vit cette déception extrême. Bien sûr, le personnage est exagéré, mais on voit comment une déception peut affecter toute notre vie lorsqu'il remplit le cœur, lorsque, comme dit ce proverbe, il peut nous rendre malades, moralement malades, spirituellement malades. Alors nous voulons creuser ce sentiment un peu plus pour ne pas être esclaves de la déception. Nous allons découvrir ici la réalité de la déception, ensuite son utilité, et enfin nous allons voir que pour le chrétien, ce ne sera pas une finalité. Sa réalité, son utilité, mais pas une finalité, j'espère. La réalité de la déception, un espoir différé, rend le cœur malade. Les proverbes, on aime bien les proverbes, parce qu'ils ont cette manière pertinente de décrire l'expérience universelle des hommes. Vous savez, le livre des proverbes est très différent du reste de la Bible. C'est pas comme les évangiles ou comme les livres de Genèse, d'Exode, tout ça. Ce ne sont pas des prophéties en soi, ce ne sont pas des commandements directs, ce ne sont pas des promesses directes, c'est plutôt des constats qui renferme la sagesse, c'est des généralisations sur la manière que fonctionne la vie. Et c'est sûr, ils peuvent nous aider à beaucoup comprendre la vie, notre vécu, notre cœur. Et une chose qui peut nous aider à comprendre les proverbes, c'est de savoir que dans la littérature hébraïque, on aime faire les parallèles. Donc presque tous les proverbes, c'est deux phrases, et puis les deux sont parallèles. Parfois les parallèles, c'est une parallèle similaire, de comparaison. Parfois le parallèle, c'est par contraste. Et ici, c'est le contraste. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. D'un côté, vous avez un espoir différé qui rend le cœur malade, contrasté à un désir accompli qui est comme un arbre de vie. Et j'aime bien cette expression, un arbre de vie peut nous aider parce que justement le livre de Proverbes aime bien cette expression que souvent les bénédictions, la bénédiction de Dieu est comme un arbre de vie. Et c'est une belle image. On sait qu'un pommier donne des pommes, on sait qu'un cerisier donne des cerises. Comment faut-il appeler un arbre qui donne la vie? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est tout l'image de ce que ça porte, la vie, un fruit dans notre vie. C'est le contraire de quelque chose qui enlève la vie, qui nous affaiblit, qui rend le cœur malade. Et on va comparer tout, dans ce proverbe la déception et puis la satisfaction, un désir accompli qui nous satisfait et puis un espoir différé qui nous déçoit. Bien sûr, plus le désir, plus l'espoir important, plus la satisfaction est grande quand elle se réalise, et aussi plus la déception est grande quand elle ne se réalise pas. Et justement, quand il parle d'un cœur malade, il me semble qu'il montre bien à quel point cela peut nous affecter, les proportions que cela peut prendre. C'est un espoir différé qui ne se réalise pas. La déception, après, peut produire plein d'autres sentiments, que ce soit l'amertume ou la tristesse ou la déprime. Je pense pour le chrétien aussi, la déception peut vraiment affecter toute sa vie avec Dieu, toute sa conception de Dieu, s'il commence à douter de la bonté, l'amour de Dieu. Bien sûr, certaines attentes, certaines déceptions viennent des espoirs non réalistes, qui sont passages. Ce matin, des milliers d'Américains sont très très déçus parce qu'ils ont suivi les enseignements d'un prophète qui a annoncé la fin du monde hier, 21 mai 2011, à 18h. Et là, ils sont déçus, très déçus, mais leurs espoirs, leurs attentes n'avaient rien avec le message de la Bible. Bien, je pense à certains mariages qui finissent mal parce que les attentes, dès le départ, les attentes, les espoirs n'étaient pas réalistes. N'était pas basé sur la vérité, sur la nature humaine, sur l'amour. J'aime bien, j'ai croisé un livre sur le mariage, un livre chrétien pour le mariage, mais le titre c'est « Mais qu'est-ce que tu attendais ?» Et parfois le titre est pas mal pour nous rappeler ce qui ne va pas dans beaucoup de couples, mais qu'est-ce que tu attendais après tout? Il faut peut-être revoir nos attentes et nos espoirs. Mais ce verset dit en tout cas qu'il est normal, il est humain d'avoir des espoirs, d'avoir des désirs. Ça fait partie de la vie. Et c'est surtout la déception. La déception est surtout difficile à vivre quand elle vient d'un désir légitime, d'un espoir légitime. Alors oui, nous vivons avec de grandes espérances, de grands espoirs, mais beaucoup sont très légitimes. La liste serait trop longue pour montrer à quel point dans cette vie, les grandes espérances se transforment malheureusement en grosses déceptions. Ne pas avoir été pris dans l'école de son choix, avoir réussi telle chose, ne pas être marié à l'âge qu'on voulait, ne pas pouvoir avoir des enfants, ne pas avoir connu la famille qu'on aurait aimé connaître, ou bien déçu de ses parents, ou déçu de ses enfants, déçu de sa partie politique, déçu de son église, toutes sortes de déceptions possibles. On peut être déçu par les circonstances, on peut être déçu par une personne, une proche. Et finalement, le constat, c'est que la vie est remplie de ces espoirs différés qui rendent le cœur malade. Il y a cette chanson très touchante, très populaire maintenant, ça a été repris, diffusé sur Internet plein de fois. C'était repris en anglais, mais l'origine c'est en français. C'est le personnage de Fantine dans Les Misérables qui chante « J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. J'avais rêvé d'une autre vie, mais cette vie a tué mes rêves. » Et beaucoup s'y retrouvent dans ce chant. « J'avais rêvé d'une autre vie, mais cette vie a tué mes rêves. » Et quand on fait le constat un peu, quelle partie de ce verset décrit mieux notre vécu, notre sentiment régulier? Est-ce qu'on vit plus des désirs accomplis, ou est-ce qu'on vit plus davantage des espoirs différés, non réalisés? Qu'est-ce qui nous arrive plus souvent dans la vie? Quels sentiments nous arrivent plus souvent, la satisfaction ou la déception? Vous pouvez demander à Salomon d'ailleurs, lui qui a écrit ses proverbes, demander à Salomon qu'est-ce qui arrive plus souvent, la satisfaction ou la déception. Il vous aurait peut-être dit, j'ai écrit un autre livre sur le sujet qui parle surtout de ça. Ça s'appelle l'Ecclésiaste et le sous-titre c'est Vanité des vanités. N'avons-nous pas l'impression, le sentiment que même nos meilleures expériences, même nos grandes joies sont mitigées, sont mélangées avec une certaine déception? On va passer des vacances merveilleuses en famille, mais on va rentrer, on pourrait peut-être imaginer mieux ou quelque chose va nous décevoir. Je pense à nous les chrétiens, on va passer un dimanche ensemble, super, mais il y aura toujours quelque chose qui nous déçoit. Peut-être on aurait aimé une meilleure assistance à la réunion d'évangélisation, on aurait aimé une meilleure réponse, ou bien quelqu'un nous a déçus par son comportement. Est-ce qu'un prédicateur est toujours content de son message? Je n'ai jamais prêché un message dont je n'étais pas un peu déçu quand même. Ne vous arrive pas de telles choses? Donc la réalité de ce sentiment est archi présente dans la vie, oui. Maintenant, voyons l'utilité de ce sentiment. Je crois que la déception peut être utile. L'utilité de la déception, c'est de nous amener à nous poser plusieurs questions sur notre vie, sur notre monde. Justement, c'est comme ça que fonctionne le livre des Proverbes. Nous faire poser des questions sur l'état des choses et de nous apporter une sagesse, nous apporter une vision du monde qui est cohérente, qui est sage. Et ce verset dit que nos déceptions et nos désirs sont très liés. Hein. Les déceptions et les désirs seront toujours très liés. Ils sont contrastés, ils sont mis ensemble. D'un côté, un espoir différé, d'un côté, un désir accompli. Et il me semble que ce soit nos désirs ou que ce soit nos déceptions, la clé, c'est de comprendre qu'ils pointent vers quelque chose d'autre. Nos désirs et nos déceptions devrait diriger nos regards vers quelque chose d'autre. C'est C.S. Lewis qui a compris cela mieux que tout autre. Je vous lis un peu ce qu'il dit. La créature, selon le chrétien, selon la vision chrétienne, on croit que la créature ne naît pas avec un désir, sauf si la satisfaction pour ce désir existe. Il dit, regardez, un bébé va avoir le sentiment de faim, un bébé ressent la faim, mais on pourrait au moins dire que la nourriture existe. Elle n'a pas toujours accès immédiatement, mais si un bébé ressent la faim, c'est la preuve que la nourriture existe. L'homme ressent un désir sexuel, par exemple, eh bien, on pourrait dire que le sexe existe. Mais si je trouve en moi un désir que nulle expérience dans ce monde ne peut satisfaire, eh bien, l'explication la plus probable, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Ça, c'est une phrase connue de Lewis. Si je trouve en moi un désir que nulle expérience dans ce monde ne peut satisfaire, eh bien l'explication la plus probable, c'est que j'étais fait pour un autre monde. Et il va dire que finalement, tous nos espoirs, tous nos désirs, ils sont des échos, ils sont des ombres, ils sont des rappels d'une réalité. J'aime bien comme il dit, quand on regarde nos désirs, même les désirs satisfaits, mais aussi des désirs déçus. Mais finalement, nos désirs, c'est le parfum d'une fleur que nous n'avons pas encore trouvée, C'est l'écho d'une mélodie que nous n'avons pas encore entendue. C'est la nouvelle d'un pays que nous n'avons pas encore visité. C'est-à-dire, on va vivre des choses, ils vont nous plaire, nous satisfaire, mais la Bible dit que ces choses-là ne sont que des échos, que des traces. Et l'utilité de la déception, quand nous la vivons dans ce monde, l'utilité de la déception, c'est de nous rappeler que nous ne sommes pas faits, nous ne sommes pas entièrement chez nous. Nous ne sommes pas faits pour ce monde éternellement. C'est-à-dire, Dieu a fait exprès que les choses dans ce monde nous laissent sur notre faim. Et le grand message de la Bible, c'est que le grand message de la Bible, c'est si vous misez tous vos espoirs sur les choses dans ce monde, c'est garanti, vous serez déçus. Vous serez toujours éternellement déçus, le cœur sera toujours malade. Si vous misez tous vos espoirs sur les choses dans ce monde, ils vont toujours vous décevoir. Alors, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce monde et il y a des désirs qui s'accomplissent, qui sont doux à l'âme, comme dit ce proverbe. La joie d'être aimé par un conjoint, la joie de fêter en famille, la joie de prendre un repas avec des amis, la joie de voyager, ce sont des joies et parfois Dieu nous accorde ces désirs, c'est bien, mais il faut les voir comme des choses... justement des échos, c'est le parfum d'un fleur qu'on n'a pas vraiment trouvé. Ou, moi j'aimerais dire que c'est comme des cartes postales que Dieu envoie de là où il est. Vous savez, quand on part en vacances, on va envoyer une carte postale à ses amis, et donc l'image est magnifique sur la carte postale, c'est pas mal, on pense à vous, etc. Mais là, tout le monde sait que la carte postale n'est pas pareille que la destination elle-même. Et notre problème, c'est de dire, il me faut à tout prix la carte postale. Et de s'arrêter là, et ne pas garder en tête la destination, et de dire, c'est surtout là où je veux me rendre. Notre problème, c'est de prendre cette carte postale et dire, ça, ce serait la solution à tous mes problèmes. Mais si on fait ça, c'est garanti, on va être déçu. Nos désirs vont nous tromper. Et la Bible va même plus loin, elle va dire, c'est en fait, quand on fait ça, c'est là toute notre bêtise, c'est notre péché, c'est notre méchanceté, c'est notre mal, c'est de confondre la destination finale que représente Dieu avec les choses de ce monde, les cartes postales. Verset 19. Je vous l'ai lu. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. J'ai mis toute la semaine pour essayer de comprendre ce verset. Je ne suis pas sûr que je suis bien arrivé, mais dans le proverbe, justement, des choses sont contrastées. On a vu, c'est vrai dans tout ce chapitre, il y a toujours une phrase et puis son contraire qui vient après. Verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. Verset 15, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. 16, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de la folie. Alors, à chaque fois, il y a deux choses parallèles, l'un est une démarche positive, l'autre le contraire. Mais arrivé au verset 19, j'avais du mal à voir le contraste. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Mais peut-être ce verset est en train de dire que le problème avec l'insensé, c'est qu'il ne veut pas s'éloigner du mal pour combler ses désirs. Et il va être toujours déçu, ses désirs ne seront jamais accomplis. Donc d'un côté, vous avez un désir accompli qui est doux à l'âme, d'un autre côté, vous avez l'insensé qui cherche toujours, et toujours, et toujours, mais qui ne s'éloigne pas du mal. Finalement, le mal en nous, c'est de ne pas chercher à accomplir nos désirs en Dieu. Peut-être un verset qui peut nous aider, qu'on connaît beaucoup mieux, qu'on saisit plus facilement, c'est en psaume, le psaume 37, verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et là, les désirs vont s'accomplir et ce sera doux à l'âme. Mais si tu ne fais pas l'Éternel tes délices, ça veut dire que tu es un insensé et que tu cherches ailleurs, et ça veut dire que tu fais le mal. Voilà comment fonctionne la Bible. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Et selon Jérémie, le grand péché de l'homme, c'est justement d'abandonner Dieu, une fontaine d'eau vive, une fontaine qui peut satisfaire nos désirs, et de chercher dans les citernes crevassées, comme dit Jérémie, pour des choses qui ne satisfaisent pas. Donc l'utilité de la déception, c'est de nous rappeler que dans ce monde, rien ne peut vraiment nous satisfaire. Si on fixe tous nos espoirs sur un mariage, sur nos enfants, sur un salaire, ces choses vont nous décevoir. Donc l'utilité de la déception, c'est de nous dire, mais regardez ailleurs, regardez pas dans ce monde, regardez dans un autre monde, regardez le monde où habite Dieu, regardez dans le monde de ses promesses, de son évangile. Donc il y a une réalité, il y a une utilité à la déception. Maintenant on peut voir que la déception pour le chrétien ne sera pas une finalité. Elle ne doit pas être une finalité pour nous. On peut vivre des déceptions, mais elles ne doivent pas être ce qui définissent notre vie. Et j'aime bien un peu ce principe, presque une promesse du verset 25 que je vous ai lu. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Le juste, selon ce proverbe, le juste, eh bien, il sera satisfait. Il va manger et satisfaire son appétit, mais le méchant, finalement, ce sera la disette. Donc, la finalité, notre finalité pour le chrétien, c'est d'être satisfait. Bien sûr, un tel verset doit être pris à la lumière de l'éternité, parce que dans ce monde, ce n'est pas toujours comme ça. On voit les justes qui ont plutôt faim, qui vivent des espoirs différés. Il y en a parfois l'impression que ceux qui vivent sans Dieu, les méchants, eux, ils sont satisfaits. Mais à la lumière de l'éternité, ce verset va se réaliser. Vous savez, si Dieu est votre grand désir, si c'est lui votre espoir, eh bien la promesse de la Bible, c'est que vous ne serez jamais déçus. Et la promesse accessoire qui s'ajoute à ça, c'est que vous allez pouvoir jouir du reste. Généralement, si Dieu est votre plus grand désir, le reste viendra, comme dit le psaume. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si autre chose est votre plus grand désir, le drame, c'est que vous allez perdre et Dieu et la chose. Et ça, c'est flagrant. Celui qui aime l'argent plus que tout, plus que Dieu, il perd Dieu. Et il perd la jouissance, le plaisir que peut apporter l'argent, parce que c'est le stress de le perdre, c'est le stress de le gagner, c'est la convoitise qui envahit son être, et il n'a même pas les plaisirs, les simples plaisirs que peut apporter les biens matériels. Quelqu'un qui désire, qui espère que ses enfants réussissent plus que tout, bien, en général, il va oublier Dieu et les enfants risquent de ne pas se tourner. Donc, c'est comme ça que fonctionne la vie. Si Dieu est en premier, les désirs secondaires viennent aussi. Si Dieu passe en deuxième, on perd et Dieu et nos désirs. Mais la promesse, la belle promesse de la Bible, c'est que en mettant Dieu en premier, en cherchant sa royaume et sa justice, eh bien, toutes les choses vous seront données par-dessus. Et vous ne serez jamais déçus. Là, je vais citer une autre source. Ce n'est pas de la littérature classique, peut-être. Mais c'est une source qui nous rappelle souvent des vérités. On l'a encore entendu un peu ce matin. C'est un chant de notre sœur Astrid. Le premier chant d'Astrid que j'ai entendu en venant dans cette église. Le premier strophe dit « Mes amis me décevront, mais Jésus est fidèle ». La deuxième strophe dit « Mon patron me décevra, mais Jésus est fidèle ». Troisième strophe « Ma famille me décevra, mais Jésus est fidèle ». Et j'ai compris l'avantage de ce chant, c'est qu'on peut ajouter autant de strophes qu'on aimerait, qu'on voudrait, qu'il faudrait dans telle ou telle culture pour comprendre le message. Jésus est fidèle, le monde entier me décevra, mais Jésus est fidèle. Et c'est la grande promesse de la Bible. Tout dans ce monde, si vous misez vos espoirs, ils vont vous décevoir. Vous allez connaître ce cœur malade. Mais Jésus est fidèle. Vous savez, les disciples, eux, ils ont vécu une grosse déception. Les 12 disciples. Ils ont vécu une grosse déception, peut-être la plus grande de la Bible. Un espoir plus que différé, un espoir brisé, un espoir anéanti. Leur ami, leur maître a été crucifié. Ils avaient mis tous leurs espoirs et c'était fini. Et on les retrouve après, quelques jours après, en train de marcher, de discuter ensemble. Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, nous espérions que ce soit lui que délivra Israël, mais voilà, trois jours que ces choses sont passées. Nous espérions que ce soit lui, mais là, nos espoirs ont été brisés. Nous avons été très, très déçus. Mais le chrétien connaît comme ça se passe. Après, c'est vrai, ses disciples, ils espéraient une délivrance politique. Leurs espoirs, c'était dans cette délivrance politique et cette délivrance immédiate. Et ça a été déçu, différé, mais finalement, cette aspiration pour une délivrance, c'était un écho d'une délivrance plus grande, plus profonde, dont a besoin chaque cœur humain. Et là, c'est exactement ce que Jésus-Christ est allé accomplir par sa mort et sa résurrection. Lui, il a apporté la délivrance. Lui est allé à la croix, à notre place, nous les insensés, nous les méchants, nous les injustes, rien que par la définition des proverbes. Voilà, c'était nous, les injustes et les méchants. Eh bien, il a pris notre place. Et lui, à la croix, on pourrait dire qu'il a vécu la plus grosse déception qu'un homme a jamais connue, abandonné par son père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Dieu, il a été rejeté par les siens. Lui, il a été déçu, mais pour que nous sachions qu'il ne nous décevra jamais, il ne nous lâchera jamais, il sera fidèle jusqu'au bout. Alors, on parle d'un désir accompli qui est comme un arbre de vie. C'est ce que la promesse de la Bible nous offre. C'est vrai, Jésus est allé sur cette croix, cet arbre de mort, pour nous laisser, pour nous la transformer en arbre de vie. Et quand on regarde, quand on saisit le message de la croix, qu'on voit que, oui, enfin, Jésus, ce salut qu'il m'offre, cet évangile de me dire... je t'aime, je t'accepte, je te justifie, je te prends, je te garantis une éternité avec moi, je te garantis une vie éternelle. Là, on voit que ce n'est plus la carte postale, c'est la destination. Il est la réalité. Christ derrière tous les échos, toutes les images, toutes les ombres, tous nos désirs qu'on vit dans ce monde, eh bien, c'est lui la réalité, c'est lui qui les incarne, c'est lui le trésor. L'amour que nous recherchons, soit dans une relation, un mariage, une amitié, la sécurité que nous recherchons, l'approbation que nous recherchons, ces choses souvent dont on est déçu, eh bien, on les trouve de la manière la plus pure pour nous à la croix. Et c'est ça qui nous aide quand on vit une déception ici-bas, on peut savoir que c'est pas la fin du monde. Une déception reste... secondaire à côté de la satisfaction que Dieu offre. Et ça nous aide à bien vivre et nos satisfactions et nos déceptions. Et je vous laisse un peu avec ce conseil pour terminer. Si dans cette vie, vous avez l'impression d'être plutôt bien, satisfait, que vos espoirs se réalisent plutôt, eh bien ne faites pas l'erreur de d'arrêter là. N'en faites pas des idoles de ces choses-là, les désirs qui s'accomplissent, mais profitez pour regarder qu'il y a bien meilleur qui arrive. Là, Dieu vous donne la carte postale pour l'instant. Vous pouvez la mettre sur votre frigo et en jouir. Mais n'oubliez pas la destination finale. Et si, dans cette vie, vous avez plutôt l'impression que c'est déception après déception, bien, reconnaissez que, voilà, il s'agit d'un espoir différé. Dieu a créé le monde pour justement on ne soit pas épanoui, content dans les choses, les désirs de ce monde. Et si on est déçu, c'est pour qu'on tourne les regards vers quelque chose qui ne décevra jamais. La promesse de Jésus est vraie, véritable encore ce matin. Heureux vous qui avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez consolés. Ça, c'est la promesse de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble.